France Culture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Joséphine Reynartz, Gwendoline Troiano et Antoinette Benoît, réalisé par Vivian Lecuivre, et à la technique ce matin, c'est Dalia. Le Canada vote aujourd'hui pour des élections fédérales anticipées. 4 épisodes sur les piliers du modèle canadien et leur remise en cause. On évoquera demain le bilan contesté de Justin Trudeau. Mercredi, l'extractivisme ou les faux-semblants d'une superpuissance. Jeudi, le pays qui se ferme à l'immigration, notamment européenne. Aujourd'hui, les relations avec le voisin états-unien, pour le moins bousculé. Pierre Elliott Trudeau disait en son temps que être voisin des États-Unis, c'est de toute façon dormir avec un éléphant, même quand la bête est placide. On subit chacun de ces mouvements ou de ces grognements.
Les droits de douane de 25% vont s'appliquer au Canada et cela va commencer dès maintenant. Ils vont devoir appliquer ces droits de douane et ce qu'ils devraient faire honnêtement, c'est construire leurs usines de voitures et autres choses aux États-Unis, auquel cas ils n'auraient tout simplement pas de droits de douane.
Nous prendrons des mesures pour prévenir les comportements prédateurs qui menacent nos entreprises en raison des répercussions de cette guerre commerciale. Je n'ai pas l'habitude d'être d'accord avec le Wall Street Journal, mais Donald, il faut remarquer que même si tu es un gars très intelligent, là, tu fais une chose vraiment stupide.
Nous comprenons que le président Trump prenne des décisions pour sa propre administration et son propre peuple. Mais nous avons veillé à ce qu'il y ait des contre-droits de douane sur les produits américains envoyés au Canada. Nous exerçons une pression maximale sur l'administration Trump.
Une provocation et la combativité se réveillent, même si les déclarations de Donald Trump sont mouvantes comme les roues d'un vieux taco. Elles ont forcé toute la classe politique canadienne à réagir en pleine campagne électorale. En ce sens, ça peut faire du bien, ces petites injustices inattendues qui claquent absurdement sans prévenir, écrivait Robert Linhart en racontant son année comme ouvrier spécialisé dans l'industrie automobile. Et si j'emploie le champ lexical de la voiture pour commencer cette émission, c'est que ce secteur est particulièrement concerné par les droits de douane imposés par les États-Unis au Canada, puis par le Canada aux États-Unis. Pour Donald Trump, il s'agirait d'en finir avec une politique commerciale qui serait, d'après lui, trop avantageuse pour le Canada et forcer son voisin à repenser leurs relations. Le mot d'annexion n'a pas été prononcé, mais le président américain a parlé du premier ministre canadien comme d'un gouverneur. Réponse immédiate du gouvernement d'Ottawa : nous pouvons être vos meilleurs amis, votre meilleur voisin, votre meilleur allié, mais nous ne serons jamais votre 51e État. Au-delà des mots, les effets de cette crispation commerciale se font sentir d'abord à la frontière où les contrôles s'intensifient et dans les rues des grandes villes canadiennes. Manifestations, slogans anti-américains, campagnes de boycott, déclarations inflexibles des candidats aux élections d'aujourd'hui, élections fédérales anticipées, comme si Donald Trump avait réveillé le patriotisme des Canadiens. Bonjour Pierre-Alexandre Bellier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur en civilisation nord-américaine à l'université Grenoble-Alpes. Vous avez écrit « Canada, États-Unis, les enjeux d'une frontière » paru aux presses universitaires de Rennes en 2016. Bonjour Laurence Cros.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue à vous. Vous êtes maîtresse de conférence en études canadiennes à l'université Paris-Cité. Aidez-nous à y voir clair, Laurence Cros, pour commencer cette émission. Tout est très volatile dans cette affaire. À quel niveau, à ce jour, sont fixés les droits de douane entre les États-Unis et le Canada? Dans quel secteur? Et lesquels bénéficient au contraire d'une suspension consentie par Donald Trump? Tout change un peu tous les jours, donc on en est où?
Alors pour l'instant, on en est ce qui est vraiment en place, c'est qui a été imposé le 4 mars. Ce sont des droits de douane de 25% sur les exportations canadiennes et de 10% sur les exportations de produits énergétiques. Alors ça, ça a été un petit peu modifié ensuite à partir du 12 mars, hein, puisque les droits de douane de 25% sur les exportations de façon générale ont été suspendus. Et à la place, les États-Unis n'ont gardé que les 10% sur les exportations de produits d'énergie et ont mis 25% sur les produits de l'acier et de l'aluminium. Et enfin, le 3 avril, les États-Unis ont imposé des droits de douane de 25% sur le secteur automobile.
Est-ce qu'on en est là ? Est-ce qu'il y a déjà des conséquences très concrètes, notamment sur l'emploi au Canada ?
Pas à ma connaissance, c'est parce que les mesures sont quand même très très récentes, donc pour l'instant... Je ne crois pas qu'il y ait de perte d'emploi, d'autant plus que le gouvernement canadien a tout de suite mis en place des programmes d'aide aux entreprises et aux particuliers. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de conséquences importantes. À part que, alors, il y a quand même des conséquences dans toute une série de secteurs. Par exemple, je lisais un article sur la production de pommes de terre sur l'île du Prince-Édouard, donc dans le golfe du Saint-Laurent. Et ce sont des producteurs qui exportent essentiellement vers les États-Unis. Alors pour eux, les droits de douane de 25% sur l'exportation des pommes de terre n'a duré que quelques jours, puisque ça a été suspendu. Mais même sur quelques jours, ça fait déjà un gros déficit pour des producteurs agricoles.
Donc des déficits, déjà des pertes de recettes, oui. Et puis des emplois, non pas pour l'instant supprimés, mais menacés. Oui. Plusieurs constructeurs automobiles comme Stellantis ou General Motors ont annoncé des mises au chômage technique ou partiel. Oui. Et des employés de l'industrie automobile s'inquiètent, notamment dans cette ville canadienne de Windsor, au sud-ouest de l'Ontario.
On reçoit moins de 50% des commandes qu'on a habituellement. Donc on n'a pas besoin de tout le monde pour travailler ici, parce qu'on n'a pas les commandes. Donc en ce moment, au moins 20% du personnel est au chômage technique. Et on espère que ça va se résoudre tôt ou tard pour retourner au travail.
On ne travaille pas pour deux semaines. Il y a plusieurs usines alentour qui ne travaillent pas pour deux semaines. Ça ralentit beaucoup l'économie, Même mon fils, il regarde pour l'emploi. Personne ne va engager maintenant parce qu'on n'est pas certain qu'est-ce qui va arriver dans le futur.
Des témoignages recueillis par Étienne Monin dans cette ville de Windsor au sud-ouest de l'Ontario, juste en face de la ville américaine de Détroit. Alors si la campagne pour les élections législatives anticipées a pris fin et laissé place au vote, alors avec le décalage horaire, les bureaux n'ouvriront que dans un peu plus de 2 heures au plus tôt, plus tard encore pour les provinces les plus à l'ouest. Néanmoins, quelle place auront occupé dans les discours des candidats Pierre-Alexandre Bélier, ces menaces, ces outrances et ces mesures formulées ou prises par Donald Trump à l'encontre du Canada ?
Oui, on peut dire que la relation américano-canadienne a véritablement monopolisé la campagne électorale, alors sans forcément éclipser les autres sujets, mais c'est une relation tellement intégrée, et une interdépendance tellement forte que finalement... La relation avec les États-Unis est intimement liée à d'autres sujets tels que l'économie et l'inflation.
Donc tous les candidats ou presque se sont prononcés, se sont sentis aussi peut-être obligés de dire que eux défendraient les emplois canadiens, l'économie canadienne face à ces droits de douane et ces menaces de Donald Trump.
Oui, exactement. Chacun a proposé un plan de contingence, on va dire, pour atténuer la menace que représentent les États-Unis et que représente la politique protectionniste. Le candidat libéral Mark Carney a promis, donc, comme l'a dit Laurence Cross, un programme de soutien aux Canadiens, un petit peu comme ce qui avait été fait pendant la pandémie de Covid-19. Il a également déclaré que la relation spéciale que le Canada et les États-Unis partageaient depuis des siècles était terminée. Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, lui, a souhaité renégocier l'accord de libre-échange s'il devenait Premier ministre, mais il a davantage mis l'accent sur la relance de projets d'extraction des ressources afin d'atténuer l'impact négatif des tarifs.
Donc chacun tente de se montrer comme l'homme fort capable de défendre l'économie et les emplois. Des réactions à la hauteur de la dépendance commerciale du Canada vis-à-vis des États-Unis. 78% des marchandises que le Canada exporte ont les États-Unis comme destination. La façon dont le Canada a répondu à cette offensive commerciale de la part de celui qui est un partenaire majeur depuis 1987, donc date de la signature du traité de libre-échange. Est-ce que, Pierre-Alexandre Bélier, est-ce que c'était une évidence pour toute la classe politique de ce qu'il fallait rendre œil pour œil, ou est-ce qu'il y a d'abord eu des atermoiements, on ne savait pas trop comment réagir?
Non, il y a véritablement eu une unification de la classe politique, que ce soit la classe politique fédérale ou la classe politique provinciale, puisque tout le monde a présenté un front commun contre la menace protectionniste des États-Unis. Et cela s'est vraiment révélé à l'échelle provinciale, puisque les premiers ministres des provinces se sont rencontrés, ont rencontré le premier ministre Justin Trudeau, puis le nouveau premier ministre Mike Carney, pour justement essayer d'avoir une stratégie commune.
Les provinces canadiennes qui n'ont pas toutes le même degré d'échanges commerciaux avec les États-Unis et qui sont assez, qui ont les coups des franges aussi pour leur politique commerciale, on y reviendra. Laurence Cross, vous vouliez réagir?
Oui, juste, en fait, effectivement, il y a un front commun sur la nécessité de réagir aux États-Unis. Je pense que, par contre, il y a vraiment différences assez importantes au niveau de la méthode à utiliser, selon les provinces en particulier. Par exemple, l'Ontario, le premier ministre d'Ontario, Doug Ford, a adopté une méthode particulièrement musclée, agressive, avec des débats avec Donald Trump. D'autres premiers ministres, par exemple la Saskatchewan, ont fait le pari d'utiliser une approche beaucoup plus dans la négociation, avec plutôt des moyens de pression en contactant l'administration américaine, les lobbies, etc.
Vous avez parlé d'un gouverneur de quelle province, pardon, l'Alberta?
Non, c'est pas ça. Non, la Saskatchewan.
D'accord, pardon,
excusez-moi. La Saskatchewan, excusez-moi. Qui est une des provinces de l'Ouest. Mais oui, on peut aussi parler de l'Alberta, qui est également une province de l'Ouest, avec d'énormes exportations de pétrole vers les États-Unis, est plutôt dans une attitude beaucoup plus modérée, en fait. Et ce sont les provinces de l'Ouest qui ont des gros ces exportations d'énergie vers les États-Unis, aussi bien la Saskatchewan que l'Alberta, et donc qui sont moins taxées et qui semblent vouloir adopter une approche peut-être moins conflictuelle.
Là-dessus, Pierre-Alexandre Bellier, il a fallu que les provinces discutent entre elles, se mettent d'accord, ou il y a de toute façon des tensions et des points de vue divergents sur la façon de répondre à Donald Trump?
Alors oui, effectivement, comme le disait Laurence Cross, on a des dissonances, notamment entre donc Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, qui a voulu faire du chantage à l'électricité, qui a même à un moment donné menacé de couper l'électricité que sa province approvisionne aux États-Unis. Et à l'inverse, la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, s'est montrée beaucoup plus timide, et elle a refusé, par exemple, d'utiliser les exportations de pétrole comme un levier de négociation. D'ailleurs, la première ministre de l'Alberta a été la seule à ne pas signer un accord signé par l'ensemble des premiers ministres provinciaux en mars.
Et d'ailleurs, on parlera en focus de l'Alberta, où certains mouvements séparatistes aujourd'hui revendiquent le droit de pouvoir se fédérer, s'unir aux États-Unis et devenir le 51e État d'Amérique. Alors, les points de vue sont très disparates au Canada. Néanmoins, la réponse a été globalement unie, avec des droits de douane, des mesures miroirs prises à l'encontre de certains produits américains, que ce soit sur les jus d'orange de Floride, la viande électro ménager, en plus de toutes les pièces faites d'acier notamment et d'aluminium.
Personne ne sait que le Canada facture nos produits laitiers. Ils ont des droits de douane de 270%. Personne ne le sait. Personne ne sait qu'ils en ont d'autres qui montent jusqu'à 400%. Et n'oubliez pas qu'en ce qui concerne le Canada, nous n'avons pas besoin de leur voiture, nous n'avons pas besoin de leur bois, nous n'avons pas besoin de leur énergie, nous n'avons besoin de rien du Canada. Et pourtant, cela nous coûte 200 milliards de dollars par an en subvention de maintenir le Canada à flot. Donc, quand je dis qu'il devrait être un État américain, c'est ce que je pense. Je le pense vraiment. Parce qu'on ne peut pas attendre de nous de porter à ce point un pays qui se trouve juste à côté de nous, à notre frontière. Ce serait un État formidable, ce serait un État chéri. Vous savez, il y a cette frontière artificielle qui semble avoir été tracée avec une règle. C'est juste une ligne artificielle qui a été tracée dans le sable ou dans la glace.
dans le sable ou dans la glace, on se souvient plus trop, c'est selon Donald Trump dans un discours récent qui s'adresse au Canada. Alors au-delà de l'économie et des emplois que chaque candidat aux élections de ce lundi a assuré être le plus qualifié à défendre, est-ce que cette nouvelle donne avec ceux qui étaient censés être des partenaires, donc les États-Unis, est-ce que cette nouvelle donne a occasionné une réflexion à la fois plus large et de plus long terme, Laurence Cross, sur l'identité canadienne dans ce grand ensemble nord-américain où les États-Unis prennent une place sans commune mesure, avec un président Donald Trump qui verrait bien le Canada comme 51e État américain. Est-ce que l'identité canadienne fait l'objet d'une réflexion particulière en ce moment?
Oui, certainement, il y a eu un espèce de réveil patriotique, parce que les choses ronronnaient un petit peu, en particulier dans les 15 dernières années, là, dans les 10 dernières années, pendant le mandat de Justin Trudeau, il y a eu comme tout un discours sur le fait que le Canada était un État post-national, qui n'avait pas véritablement d'identité nationale, mais uniquement des valeurs communes. Donc on était un petit peu dans cette vision du Canada. Et là, tout d'un coup, devant ces menaces de guerre commerciale et puis cette réapparition complètement inattendue d'une idée d'une union ou d'une annexion du Canada par les États-Unis. Alors je dis réapparition parce que c'est des choses qui ont été là, présentes dans l'histoire américaine, dans l'histoire canadienne depuis longtemps. Hein. C'est même à l'origine, hein, quasiment, de la création du Canada en 1867, au moment de la confédération des provinces séparées nord-américaines, britanniques, en Amérique du Nord.
C'est-à-dire que la première constitution américaine, qui date de 1777, elle comprenait un article qui envisageait ouvertement l'annexion des territoires du Nord. Mais à l'époque, c'était pour bouter le colonisateur britannique hors du continent américain. Il y avait une logique anti-impérialiste, anti-britannique. Et d'ailleurs, pendant la guerre d'indépendance, les rebelles américains incitaient les colons français du Québec à rejoindre la République fédérale qu'ils étaient en train de monter. Là, la logique est un petit peu différente. Elle a changé au cours du XXe siècle.
Bien sûr. Oui. Mais même au moment de la Confédération canadienne, en 1867, le Canada faisait partie de l'Empire britannique. Et la menace américaine contre le Canada à ce moment-là venait d'un conflit avec le Royaume-Uni, avec la Grande-Bretagne, donc au moment de la guerre de sécession, etc. Donc effectivement, il y a quand même une longue histoire de difficultés, mais il est vrai que depuis la Confédération et pendant tout le long du XXe siècle, plus personne n'avait évoqué d'une annexion politique. Là, ça réapparaît, ça fait un peu bizarre. Et du coup, ça a créé un réveil patriotique auprès des Canadiens qui se sont dit, mais attendez, nous, on est un pays séparé, on aime notre pays, et on est très fiers de notre pays. Et donc, on a vu fleurir un certain nombre d'éditoriaux, à la fois dans les journaux, plusieurs hommes politiques, anciens hommes politiques assez connus, assez réputés, comme par exemple Jean Chrétien, ont écrit des espèces de lettres d'amour au Canada. Quand on regarde les sondages aussi, on voit tout d'un coup les Canadiens voilà, on est un pays séparé et il y a 90% d'opinion hostile à l'idée d'une union avec les États-Unis.
Pour les Canadiens, c'est on peut faire quelque chose. On peut être ensemble, on peut faire des rassemblages comme ça, puis on peut être unis. Pour les Américains, le message c'est simple, c'est qu'on aime beaucoup, c'est un pays qui est notre voisine, notre ami, mais on veut pas vraiment être marié maintenant. Merci beaucoup.
Trump, il peut pas faire ce qu'il est en train de faire. Ce qu'on observe aux États-Unis, c'est épouvantable. Moi, si je peux faire de quoi pour empêcher ça de venir au nord des frontières, je vais tout faire.
Je vais absolument pas être le 51e État des États-Unis, jamais.
Elbows up, everybody! Elbows up! Elbows up!
Elbows up! Elbows up! coude levé ou jouer des coudes, c'est une expression qui vient du hockey. Ça veut dire se protéger contre le joueur adverse. C'est le cri de ralliement de tous les Canadiens qui manifestent aujourd'hui. Ici, c'était à Toronto le 22 mars dernier, des témoignages recueillis par la chaîne de télévision de Radio-Canada. Au-delà du slogan Pierre-Alexandre Bélier, comment aujourd'hui l'opinion publique canadienne, c'est toujours un peu délicat de parler d'une opinion publique, surtout dans un pays aussi vaste que le Canada, avec des disparités provinciales, linguistiques, culturelles. Néanmoins, comment aujourd'hui est menée cette réflexion, y compris par les Canadiens eux-mêmes, sur ce que doit être une identité canadienne? Est-ce que c'est nécessairement par rapport aux États-Unis?
Oui, alors comme l'a dit Laurence Krauss, il y a une résurgence du patriotisme canadien qui passe par une espèce de patriotisme économique. On a beaucoup entendu parler de boycott des produits américains dans les supermarchés. Donc cette identité canadienne s'exprime à travers le consumérisme, consommer des produits canadiens, et ça se voit donc dans les supermarchés. Des autocollants, de la feuille d'érable, donc le symbole du Canada, sont apposés sur les produits canadiens, et les Canadiens se détournent véritablement des produits américains.
Ce qui est plus compliqué d'ailleurs quand il s'agit de boycotter des chips américaines qui sont souvent faites avec des pommes de terre de l'Ontario, ou du ketchup américain fabriqué avec des tomates canadiennes. Là, ça se complique, on sait plus trop comment acheter, quoi acheter.
Oui, exactement. Mais donc du coup, c'est là où les supermarchés essaient justement de guider leurs clients. Et si je peux aussi me permettre, sur la question de l'identité du patriotisme canadien, on a aussi remarqué une espèce d'unification du Québec dans cette lutte contre les États-Unis. Le Québec qui a toujours revendiqué une identité autonome, voire séparatiste. Et là, ces derniers mois, les Québécois se sont davantage ralliés au Canada pour faire face à l'ennemi américain.
Laurence Krauss.
Oui, juste une petite remarque là-dessus, c'est parce que tout à l'heure vous parliez de Trump qui déclare que le Canada est une création artificielle, et justement le chef du parti du Bloc québécois là, qui est Yves-François Blanchet, vient de se faire taper sur les doigts parce qu'il vient de parler dans un discours du Canada comme d'une création artificielle. Donc alors, sachant que le Bloc québécois est un parti séparatiste, donc eux, leur idée, c'est de créer un Québec indépendant.
Donc il y a de toute façon, oui, du côté des partis séparatistes, on se pose un petit peu plus, on est plus intéressé par les propositions et déclarations de Donald Trump qu'ailleurs.
Non, pas spécialement.
Ah non, c'est qu'en Alberta, mais pas ailleurs.
Oui, non. C'est un parti séparatiste qui veut créer un Québec séparé, mais pas du tout un État américain.
Alors, Pierre-Alexandre Bélier, vous parliez de cette identité canadienne. Est-ce qu'elle se définit, est-ce qu'elle s'est définie au cours des dernières décennies en rejet des États-Unis, en négatif? La question des valeurs aussi se pose, me semble-t-il, dans ce débat-là.
Oui, exactement. En fait, la réflexion autour d'une identité canadienne a duré pendant des siècles. Au début, les Canadiens se sont définis comme liés à leur mère patrie, donc la Grande-Bretagne. Puis après, au cours du 19e et du 20e siècle, ils se sont définis en creux contre les États-Unis. Le Canada, c'était le pays qui n'avait pas rejoint la Révolution américaine. C'était un pays beaucoup plus progressiste, qui au 20e siècle avait adopté un État-providence beaucoup plus développé que les États-Unis. Un pays qui s'était prononcé contre le port d'armes. Et donc, l'identité canadienne s'est modelée par opposition aux États-Unis. Puis, dans les dernières décennies, la question du multiculturalisme a donné, on va dire, une caractéristique plus positive, à l'identité canadienne.
Le 11 septembre de 2001 aussi, et la guerre contre le terrorisme déclarée par George W. Bush avait fait beaucoup réagir au Canada.
Oui, exactement. Là, c'est vrai que on retrouve des tensions qu'on avait déjà remarquées dans le sillage du 11 septembre, puisque les relations entre le Canada et George W. Bush étaient vraiment très très difficiles. À un moment, les canaux de communication étaient presque coupés. La politique de sécurisation de la frontière était perçue par le Canada comme un tournant, comme la distanciation, on peut dire, ou la fin d'une relation spéciale. Et finalement, là, on voit que la rhétorique est un petit peu similaire. mais dans le domaine économique.
Alors, dans le domaine économique, vous parliez des mouvements de boycott qui se sont mis en place. Il y a, c'est un peu partout dans l'espace public, me semble-t-il, qu'aujourd'hui, on peut voir au Canada ce patriotisme qui ressurgit, ce sursaut patriotique. Est-ce qu'il vous semble, Pierre-Alexandre Bélier, assez inédit? C'est quelque chose qu'on voit souvent ressurgir comme ça dans les rues, des slogans, des panneaux publicitaires sur les vitrines des bars, ces slogans « I'm Canadian ». Ou je suis canadien pour les francophones.
Oui. Bah, disons que le Canada, on n'associe pas forcément le Canada à un pays patriotique, pas comme on l'entend dans le contexte américain. En revanche, on perçoit toujours un patriotisme, on va dire, discret. La différence, là, ces dernières semaines, c'est que c'est un patriotisme qui est beaucoup plus visible. Donc, le slogan que vous mentionnez, ça a été la publicité d'une bière dans les années 90 et 2000, « I am Canadian », mais d'une façon non agressive, on va dire. Et là, cette même publicité qui a été reprise il y a quelques semaines pour montrer un patriotisme canadien beaucoup plus prononcé pour mettre davantage l'accent sur la différence qui existe entre le Canada et les États-Unis.
Ici, vous avez un étalage donc exclusif du Québec. On a mis de plus en plus l'emphase là-dessus. Ensuite, on a des produits avec le logo du Canada. Notre entrepôt s'est retourné très très vite. Ils ont cherché des produits régionaux du Canada et aussi des autres pays autres que les États-Unis.
C'est les petits moyens qu'on peut avoir comme consommateurs pour protester. Beaucoup de gens cherchent à exprimer leur colère, sentiment de trahison par rapport aux États-Unis.
Un commerçant et une consommatrice interrogés par France 24 au mois de mars, début mars dernier. Laurence Cross, on entend aujourd'hui parler à la fois des échanges commerciaux entre les États-Unis et le Canada comme étant aujourd'hui empêchés, comme quelque chose qui attise les tensions entre les deux pays. On entend ces mouvements de boycott éclore, mais on parle de tout ça comme si le Canada et les États-Unis commerçaient ces dernières décennies comme si de rien n'était, entre guillemets, alors que les relations de bon voisinage ne coulent pas de source. Vous nous rappeliez hier, sans remonter jusqu'à l'indépendance du Canada ou des États-Unis d'abord et du Canada ensuite, et le fait qu'il y a eu aussi une logique impérialiste et une logique expansionniste plutôt au XXe siècle, la doctrine Monroe selon laquelle les États-Unis étaient voués à repousser leurs frontières pour contrôler l'ensemble du continent américain, y compris au nord, pas seulement au sud. Voilà, Laurence Cross, on parle toujours du Canada et des États-Unis comme de partenaires commerciaux, mais est-ce qu'on n'oublie pas que finalement tout ça est très récent?
Oui, la question du libre-échange, en particulier avec les États-Unis, pour le Canada, ça a été vraiment une question problématique pendant une grande partie de son histoire. Il y a eu de nombreuses reprises des projets d'établir du libre-échange et elles ont toujours été refusées à la fin du 19e, au cours du 20e. Et même dans les années 70, au moment des gouvernements de Pierre et l'autre Trudeau, il y a eu une volonté des États-Unis, du Canada, de diversifier ses relations commerciales. Ça s'appelait la troisième option. Donc la troisième option, c'était d'essayer de diversifier, de trouver de nouveaux partenaires commerciaux, puisque à cette époque-là, le Canada exportait déjà à peu près 75% de ses produits vers les États-Unis. Donc c'était beaucoup trop. Et donc pendant une dizaine d'années, le Canada a cherché à diversifier ses relations commerciales. Et c'est uniquement face à l'échec de cette tentative que le gouvernement conservateur de Brian Mulroney, dans les années 80, a commencé à négocier l'accord de libre-échange. Mais cet accord n'a été négocié qu'entre 87 et 88. Il a fait l'objet à ce moment-là d'une élection au Canada. Et en fait, la majorité des Canadiens, à cette époque-là, ont voté pour des partis qui étaient contre le traité de libre-échange. Bon, c'est quand même les libéraux qui l'ont emporté. Et donc finalement, il s'est mis en place. Mais voilà, ce n'est pas du tout une histoire qui coule de source, cette idée de rentrer dans un accord de libre-échange avec les États-Unis, parce que pendant, je dirais, plus d'un siècle, ça a évoqué une très forte peur que ça mènerait à une intégration également politique.
Donc, pour vous, le traité de libre-échange de 87, en tout cas ce qui est en train de se passer depuis 87, c'est presque, comment dire, une parenthèse dans l'histoire des relations entre les deux États, plus qu'une constante.
C'est une parenthèse, mais c'est quand même une parenthèse qui dure maintenant presque 50 ans. Donc, pendant ces 50 années, le Canada a pris d'autres habitudes. Et comme disait Pierre-Alexandre Bellier, l'intégration économique s'est énormément développée pendant ces 50 années. Et je pense que ça serait vraiment difficile pour le Canada aujourd'hui de revenir en arrière.
Et pourtant, on en parle de revenir en arrière, puisqu'en 1994, l'ALENA, l'accord Canada-États-Unis-Mexique, qui prévoit une clause de revoyure, enfin il y en a eu plusieurs, mais là, la prochaine, c'est le 1er juillet 2026. Est-ce qu'il est question qu'on ait, côté Canada ou États-Unis, d'en profiter de cette clause pour y mettre fin, Laurence Cross?
Alors, l'ALENA, en fait, n'existe plus hein, depuis
2020. Oui, il y a un autre nom, mais enfin, c'est toujours l'ALENA. Voilà, je pense que, je ne sais plus comment on le dit en français, mais c'est assez imprononçable.
Oui, c'est assez imprononçable.
Le nouveau sigle.
L'accord États-Unis-Canada-Mexique. Donc, c'est un nouvel accord qui n'est pas tout à fait quand même le même que l'ALENA.
D'accord.
Parce qu'il y a des choses qui ont été... il y a eu quelques différences. D'abord, il a été mis au goût du jour. Il y a de nouveaux secteurs qui ont été intégrés, comme tout ce qui est le numérique. Les processus aussi de règlement des conflits ont été légèrement changés. Il y a, par exemple, le secteur de tout ce qui est le secteur laitier du Canada a été plus ouvert à ce moment-là. Il y a eu des différences sur les normes de fabrication des véhicules dans l'industrie automobile. On est passé des quotas plus importants, des pourcentages plus importants de produits nord-américains. Il y a eu aussi l'introduction de normes environnementales, de normes de protection du travail, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait le même accord. Et effectivement, il est prévu que tous les 6 ans, ce nouvel accord va être réexaminé par les pays, les 3 pays. Donc, la prochaine étape, c'est 2026. Alors, moi, ce que j'ai lu dans des articles très récents là, du Canada... C'est en fait, on voit une espèce de lueur d'espoir au Canada. Alors peut-être qu'ils sont trop optimistes, je ne sais pas. Mais on sent plutôt se diriger vers le fait que la réaction assez musclée du Canada à la guerre commerciale américaine va peut-être adoucir la position des États-Unis et permettra une renégociation assez intéressante de cet accord. Peut-être aussi avec l'idée de s'aligner sur les États-Unis pour créer une forteresse nord-américaine économique contre le reste du monde. C'est-à-dire qu'on garderait des droits de douane, mais contre le reste du monde, et contre la Chine en particulier, puisque depuis un an, le Canada est aussi engagé dans une guerre commerciale contre la Chine, avec des droits de douane très élevés des deux côtés.
Donc le Canada verra si il a plutôt intérêt à ériger, à maintenir des barrières commerciales avec les États-Unis, remettre en cause l'ALENA ou enfin l'ALENA. Donc le nouvel l'ALENA façon 2025, ou si au contraire il faudra plus s'allier pour être plus fort face notamment à la Chine. Alors en attendant, parmi les mesures qui ont été prises par le Canada pour rétorquer aux États-Unis, alors c'est pas une mesure à proprement parler, mais c'est plutôt des encouragements et notamment de Justin Trudeau après sa démission. D'ailleurs il a démissionné début janvier et quelques semaines plus tard, il disait aux Canadiens si vous vouliez partir en vacances aux États-Unis, changez de plan. Ça sera votre façon d'aider le Canada. Pierre-Alexandre Bellier, est-ce qu'on peut déjà voir si les mouvements de population, de personnes ont diminué, se sont taris du côté de la frontière?
Oui, effectivement, ça fait partie un petit peu du deuxième versant de la réponse des citoyens canadiens. Les Canadiens se sont détournés des États-Unis volontairement en signe de protestation, alors qu'il est vraiment très très commun pour ces derniers de traverser la frontière pour des activités de loisirs, de tourisme, de shopping. Les voyages du Canada vers les États-Unis ont diminué de 25% en mars 2025 par rapport à mars 2024. C'est-à-dire qu'on est passé de 1,7 million de passages l'année dernière à 1,3 million. Et finalement, cela se ressent vraiment aux États-Unis, puisque les ventes d'essence dans la région de l'Ouest ont diminué de 40 à 50% depuis le début de l'année. puisque traditionnellement, les Canadiens traversent pour acheter de l'essence qui est beaucoup moins chère aux États-Unis. Et cela se ressent également dans les supermarchés américains, puisque le shopping transfrontalier ou le magasinage transfrontalier, comme on l'appelle au Québec, est un phénomène qui est répandu tout le long de la frontière. Et personnellement, j'ai une amie qui travaille dans l'un des supermarchés de Bellingham, une ville frontière qui se situe à 35 km du Canada et qui dépend d'une clientèle canadienne. Et les clients canadiens ne viennent plus du tout. Donc,
Donc on sent déjà vraiment les effets de ces passes d'armes entre Canada et États-Unis, aussi peut-être avec la peur tout simplement de ne pas pouvoir revenir au Canada si ces personnes allaient faire leurs courses aux États-Unis comme elles le font d'habitude. C'est quelque chose que vous aviez déjà pu constater en 2019 lorsque vous faisiez votre terrain de thèse à Bellingham entre Seattle et Vancouver, donc à 20 km de la frontière.
Exactement. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà vu lors du premier mandat de Donald Trump. J'avais justement étudié les mobilités transfrontalières et un certain nombre de Canadiens avaient soit arrêté de traverser la frontière, soit traversé beaucoup moins souvent parce qu'ils avaient peur de rester coincés aux États-Unis, puisqu'à l'époque Donald Trump menaçait de fermer la frontière, mais il voulait simplement plus se soumettre au contrôle qui était de plus en plus agressif. Et là, apparemment, c'est quelque chose qu'on voit ressurgir à la frontière, des questions beaucoup plus intrusives, des personnes qui se font fouiller le portable, les ordinateurs, puisque théoriquement, les agents frontaliers peuvent regarder sur vos réseaux sociaux, sur vos appareils électroniques. Et donc, il y a vraiment cette peur de traverser la frontière qui fait également partie de la réponse.
Oui. Et il y a ce lieu qui est devenu comme un symbole à la fois des liens entre les Canadiens et les États-Unis et aussi de ce qui peut se compliquer quand leurs relations se tendent. C'est cette bibliothèque qui est située sur le tracé entre le Canada et les États-Unis, qui est administrée par les États-Unis, mais qui était jusqu'à présent librement accessible pour les Canadiens. Or, désormais, si j'ai bien compris, il faut déposer une demande de visa pour aller à la bibliothèque, c'est ça ?
Exactement. Alors peut-être pas non une demande de visa, mais il faut simplement montrer son passeport.
D'accord.
En fait, la bibliothèque a été construite sur la frontière, comme vous l'avez dit. Mmh. C'était un symbole de cette relation amicale que le Canada et les États-Unis partageaient. Et si la porte se trouve du côté américain, la tradition voulait que les Canadiens pouvaient y avoir accès sans passer les contrôles frontaliers s'ils retournaient au Canada sans rentrer par les États-Unis finalement. Et là, depuis un mois, cette coutume, cette tradition n'est plus en vigueur. Les Canadiens doivent se présenter d'abord aux agents de douane américains pour pouvoir ensuite aller à rentrer dans la bibliothèque. Donc ça cristallise vraiment la fin de cette relation spéciale, ou en tout cas le durcissement des relations entre les deux pays.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure Laurence Cross, le père de Justin Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau, premier ministre de 1968 à 84, qui parlait à l'époque d'une troisième voie à trouver entre les États-Unis d'un côté et l'Europe de l'autre. Pour l'instant, de troisième voie, je ne sais pas s'il y a vraiment, mais quand le premier ministre canadien est entré en fonction, Mark Carney, il s'est rendu dans l'ordre à Paris, à Londres, alors que d'habitude, le premier ministre canadien va à Washington en premier. Et puis, il était allé aussi dans la capitale du Nunavut, dans le territoire arctique canadien, parce que si le Canada se pense comme un État au cœur du triangle nord-atlantique, il l'est physiquement en Arctique avec les États-Unis d'un côté et le Groenland de l'autre. Donc comment ces dissensions, peut-être pour conclure cette première partie, se manifestent aussi en Arctique, où les souverainetés sont sensibles autant qu'elles sont floues, Laurence Cross ?
Alors, à mon sens, pour l'instant, j'ai pas vu énormément de mentions de l'article dans les discours du gouvernement canadien. Après, il y a toujours une préoccupation canadienne de défendre sa souveraineté en Arctique, et il est certain que toutes les déclarations de Donald Trump sur le Groenland ne peuvent qu'inquiéter les Canadiens aussi concernant leur souveraineté en Arctique. Alors, je crois qu'il y a eu quand même une déclaration, je crois que c'était de Pierre Poilievre, sur le fait que un des deux candidats, je ne sais plus lequel, insistant sur le fait qu'il faudra bien que les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Canada sur le passage du Nord-Ouest, qui n'a jamais été reconnu par les États-Unis, mais qui n'est pas reconnu non plus par l'Union européenne. Donc, ça reste toujours une question un petit peu conflictuelle. Cela dit, là aussi, dans les déclarations de Mark Carney, il semble beaucoup plus inquiet sur l'ingérence chinoise potentielle en Arctique que sur l'ingérence américaine dans l'Arctique canadien actuellement. Et là aussi, en fait, c'est une pomme de discorde avec les États-Unis. Les États-Unis reprochent au Canada de ne pas dépenser assez d'argent pour sécuriser l'Arctique.
Nelly Young, qui a la double nationalité états-unienne et canadienne dans cette chanson Rocking in the Free World en 1989. Il évoque la pauvreté aux États-Unis et dans d'autres pays, et c'est une chanson que Donald Trump avait utilisée pendant sa campagne en 2016, qui avait mis très en colère Nelly Young, expliquant qu'il ne pouvait pas permettre que sa musique soit utilisée comme chanson principale d'une campagne anti-américaine clivante et fondée sur l'ignorance et la haine. Finalement, il a abandonné sa plainte. Vous écoutez Culture Monde, le premier épisode d'une série tout entière consacrée au Canada qui votera dans quelques heures pour les élections fédérales anticipées. Le temps que le jour se lève, il n'est jamais que 7h11 à Saint-Jean-de-Terre-Neuve et encore 2h41 à Vancouver. Nos invités Laurence Cross et Pierre-Alexandre Bélier nous parlent du sursaut patriotique provoqué par les mesures prises par Donald Trump. Tous les États canadiens n'ont pas eu ce même tressaillement. En Alberta, par exemple, certains ne seraient pas contre devenir le 51e État des États-Unis.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Nous avons besoin d'un premier ministre et d'un gouvernement provincial qui comprennent réellement les besoins de la province de l'Alberta, de notre population et de notre industrie. Et ça a tout simplement été un échec total. Nous sommes allés de mal en pis. Nous avons des gouvernements dont les dépenses sont tout simplement incontrôlables. Et regardez ce qu'ils ont fait à notre industrie pétrolière et gazière. Elle continue d'être décimée.
Paul Inman, c'est le premier chef du Wild Rose Independence Party de l'Alberta, un parti séparatiste qui n'a que 5 ou 6 ans, mais qui s'inscrit dans une tradition plus longue d'électeurs de l'Ouest du Canada, qui voudraient non seulement ne plus rien avoir avec le Canada, mais aussi intégrer les États-Unis. Il est 5h42 à Montréal, où vous êtes, Jamila Moness. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de vous être levé si tôt pour nous. Vous êtes chercheuse en sociologie politique à l'Université du Québec à Montréal, conseillère syndicale. Vos travaux portent notamment sur les régionalismes au Canada, en particulier sur les mouvements séparatistes historiques et contemporains dans l'ouest du pays, aux stratégies de l'extrême droite et à leur impact sur les droits sociaux également. D'abord, ce parti de l'indépendance de l'Alberta, qui représente-t-il aujourd'hui? Est-ce qu'il est le seul à avoir pour son État des rêves états-uniens?
Oui, très bonne question. À 5h42. alors, effectivement, ce parti représente très peu de personnes, parce que dans le fond, le séparatisme de l'Ouest du Canada, électoralement, est assez faible. Donc, le Western Independence Party représente très peu de personnes, mais cependant, elle représente une tendance lourde, historique, qui s'est traduite dans une foultitude, dans une constellation, je dis souvent une constellation de petits partis séparatistes dans l'Ouest du Canada. Donc, on pourrait citer celui-ci, mais on pourrait en citer d'autres également. Depuis janvier 2025, on a encore eu la création de nouveaux partis, de nouveaux mouvements, nouvelles campagnes en faveur de la séparation de l'Alberta spécifiquement du reste du pays. C'est ça, il n'est que l'un parmi tant d'autres.
La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, elle n'est pas séparatiste, elle est autonomiste plutôt, elle appartient au parti conservateur provincial, l'UCP. De quelle singularité se targuent les séparatistes d'Alberta pour affirmer qu'ils ne veulent plus avoir affaire au Canada mais aux États-Unis? Qu'est-ce que ça leur apporterait d'après eux?
Très bonne question. Alors effectivement, vous faites bien de préciser que Danielle Smith n'est pas une séparatiste. Cependant, elle est quand même très proche de tout un tas de petites formations séparatistes. Elle leur laisse ouvertement la porte ouverte. Elle entretient vraiment la confusion avec l'idée de séparation. Donc, les liens sont quand même ténus et on va le voir sans doute, mais la puissance des séparatistes sur la politique conventionnelle provinciale comme fédérale est tout à fait puissante. Quand il s'agit des revendications des séparatistes plus largement, bah écoutez, depuis les années 80, les formations séparatistes dans l'ouest du Canada se sont systématiquement incarnées à droite, voire à l'extrême droite de l'échiquier politique. Donc évidemment, les revendications vont suivre un petit peu cette idéologie-là. Ce qu'on retrouve, c'est évidemment la volonté de sécession de l'entité fédérale canadienne, avec soit la création d'un nouvel État, soit l'idée de rejoindre, effectivement, d'être annexé aux États-Unis pour devenir un nouvel État. Donc les deux options sont généralement sur la table. Et encore une fois, la confusion est souvent entretenue par les partis séparatistes eux-mêmes. Dans les autres revendications, c'est souvent beaucoup de conservatisme social, la valorisation de la famille, la valorisation de valeurs chrétiennes. On retrouve aussi la défense des armes à feu et surtout, et c'est finalement le cœur de leur programme, on retrouve la valorisation et la défense, la promotion de l'exploitation des ressources naturelles qui sont présentes dans le sol de l'Ouest canadien, mais spécifiquement de l'Alberta.
Il y a aussi
et là, on parle... Pardon, excusez-moi.
Non, je vous en prie, il y a cette conviction que les ressources agricoles, fiscales, halieutiques, énergétiques et minières, comme vous venez de le dire, de l'Ouest du Canada seraient spoliées par l'Est.
Oui, exactement, exactement. Donc en fait, il y a cette idée au fond que l'Ouest du Canada serait aliéné aux intérêts de l'Est du Canada, donc principalement aux intérêts de l'Ontario et du Québec, les fameuses élites des Laurentides, dont Trudeau et son père étaient la représentation malheureusement pour l'Ouest. Puis et donc c'est ça, ce qu'on retrouve au cœur de ce discours de l'aliénation de l'Ouest, c'est l'idée que leurs ressources naturelles et leur travail sont volés, sont spoliés par l'Est du pays. Et ces ressources-là, vous l'avez dit, c'est les ressources actuellement principalement gazières et pétrolières qui représentent presque 90% du PIB, enfin du secteur d'activité de l'Alberta. Donc effectivement, le lien de dépendance économique à ce secteur est extrêmement fort.
Est-ce que ces mouvements séparatistes canadiens ont des liens, des connexions avec la droite alternative, l'alt-right états-unienne, et en l'occurrence avec Donald Trump, et aussi avec Donald Trump en particulier?
Mais oui, c'est ça le problème, c'est qu'effectivement, ce qu'on a constaté dans les dernières années, c'est un rapprochement des extrêmes droites en général à l'international, mais spécifiquement entre les séparatistes de l'Ouest du Canada et l'alt-right américaine. Pour donner deux exemples assez récents, on peut citer évidemment le convoi des camionneurs, dit le convoi de la liberté, le Freedom Convoy, qui en janvier-février 2022 avait occupé Ottawa pendant plusieurs semaines. Il avait bénéficié d'une certaine attention médiatique parce que c'était finalement une sorte de redite canadienne du 6 janvier au Capitole américain. Et c'est comme ça que les manifestants l'avaient d'ailleurs présenté comme une redite et comme la volonté de faire au Canada ce qu'on avait déjà fait aux États-Unis.
Et ils s'étaient présentés comme des camionneurs, alors que l'Alliance canadienne du camionnage avait dit « on n'a rien à voir avec eux, ils usurpent notre identité ».
Tout à fait, exactement. Donc absolument pas un convoi de camionneurs, mais c'est un convoi par contre extrêmement poussé, non seulement par les séparatistes de l'Ouest du Canada, qui n'en étaient pas à leur première tentative, puisqu'en fait des convois de ce type, il en a déjà eu dans le passé, et deuxièmement, poussé par effectivement les financements de l'extrême droite internationale. Et donc ça a été attesté, entre autres, dans le cadre de la commission Rouleau, qui s'est tenue suite au convoi des camionneurs en 2022. Donc des liens organisationnels, financiers, idéologiques assez puissants. Et d'ailleurs, même en France, on se souvient peut-être que Éric Zemmour avait soutenu le convoi des camionneurs au Canada et appelé à un convoi de ce type en France.
Le point de départ, c'était l'obligation vaccinale faite aux chauffeurs routiers qui passaient la frontière avec les États-Unis, du point de départ ou prétexte en tout cas de ce mouvement, puisque des leaders séparatistes de l'Ouest avaient joué sur ce ressentiment créé par cette annonce, alors que, encore une fois, les syndicats de camionneurs avaient dit qu'ils n'avaient rien à voir et que de toute façon, leurs camionneurs étaient quasiment tous vaccinés. Donc ça, c'est pour rappeler le contexte. Ces partis qui précèdent de loin l'avènement des Trudeau sur la scène politique. Vous nous disiez tout à l'heure que la famille Trudeau était assez détestée dans l'ouest du Canada. C'est pas comme ça que vous nous l'avez dit, mais c'est ce qu'on peut comprendre, cette idée qu'ils font partie d'une dynastie familiale libérale qui représente les intérêts de l'est du Canada. Néanmoins, ces mouvements prennent leurs racines beaucoup plus loin. Depuis que le Canada existe comme tel, est-ce qu'il a toujours connu des mouvements qui ne se reconnaissent pas dans le projet politique fédéral?
Oui, c'est ça. En fait, c'est ça qui est absolument fascinant avec la question du séparatisme dans l'ouest du Canada, c'est que depuis les débuts de la Fédération canadienne, plus ou moins, il y a eu des poussées régionalistes et il y a eu des projets séparatistes. Donc, c'est absolument pas nouveau. Ce qui est nouveau, je pense, c'est que dans les dernières années, ces mouvements-là se sont mieux organisés, ont été arsenalisés, c'est comme ça qu'on le dit, armés, vraiment outillés par les extrêmes droites, bénéficient de beaucoup plus de financement, et puis ont une capacité d'entrisme sur la scène politique, encore une fois, provinciale comme fédérale, qui est bien plus grande qu'elle ne l'était auparavant. Cela pouvant s'expliquer, en fait, principalement par la réforme du mode de financement des partis, qui donne une place beaucoup plus grande à ces micro-formations séparatistes pour être entendues dans le corps des militants, on va dire, de ces partis-là. Donc, c'est ça. De fait, leurs résultats électoraux sont modérés. En revanche, leur capacité d'impacter durablement la politique provinciale comme fédérale est tout à fait réelle. Par exemple, Pierre Poilievre s'est montré très proche du convoi des camionneurs. Daniel Smith également. Donc, il y a vraiment des liens idéologiques assez puissants.
Pierre Poilievre, le candidat conservateur aux élections fédérales anticipées qui se tiennent tout à l'heure. Daniel Smith, la première ministre de l'Alberta, dont vous nous rappeliez tout à l'heure qu'elle n'est pas séparatiste, mais davantage autonomiste. Elle s'est souvent montrée très proche de Donald Trump. Elle était allée le voir juste après son investiture dans sa résidence à Mar-a-Lago. Est-ce que pour autant Donald Trump a fait une exception pour l'Alberta quant aux droits de douane? Est-ce que cette amitié lui a joué en sa faveur? Pas vraiment.
Mais non.
Donc
non.
Voilà. Donc, quelles sont les réactions aujourd'hui aux mesures imposées par Donald Trump?
En Alberta, en fait, ce qui a prédominé, c'est vraiment une réponse assez attendue, je crois, et assez classique pour les personnes qui regardent la politique de l'Ouest canadien, c'est-à-dire on a observé un mélange classique d'autonomisme, comme vous l'avez dit, donc de défense des intérêts de la province plutôt que ceux de la Fédération canadienne. C'est ce qu'a essayé de faire Daniel Smith en se rendant directement à Mar-a-Lago, en essayant d'entretenir une relation individuelle, personnelle avec Trump. Trump avec lequel, par ailleurs, elle a certaines affinités idéologiques, c'est certain. Elle a aussi défendu, effectivement, l'accès au marché librement, l'accès libre au marché américain, pardon. Mais jusqu'ici, on ne sait pas très bien si ça va porter ses fruits. Puis de l'autre, ce qu'a provoqué Trump, je crois, qui est quand même notable, c'est une résurgence de cette volonté de séparation en Alberta. Vous avez cité un parti tantôt, mais de fait, il y a eu tout un tas de campagnes qui ont été lancées depuis janvier. Bien sûr, il y a eu le projet Alberta 51, par exemple. Il y a aussi eu des partis qui ont appelé à la mise sur pied d'un référendum pour demander la séparation, puis ensuite l'annexion comme 51e État des États-Unis. Donc voilà, c'est ça l'impact de Donald Trump dans l'Ouest du Canada.
Merci beaucoup Jamila Moness de nous en avoir fait part. Doctorante en sociologie politique à l'Université du Québec à Montréal, vous étiez en direct de Montréal. Alors bon vote tout à l'heure puisque les bureaux de vote vont ouvrir dans quelques heures. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et je remercie aussi Pierre-Alexandre Bélier, professeur en civilisation nord-américaine à l'Université Grenoble-Alpes, auteur de Canada, États-Unis, les enjeux d'une frontière, paru aux presses universitaires de Rennes. Et merci également à Laurence Cross, maîtresse de conférence en études canadiennes à l'Université Paris-Cité. Il est l'heure de retrouver la revue de presse internationale et c'est le retour de Catherine Dutu.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Eh bien, on reste aux États-Unis, ou plutôt en Amérique du Nord. Catherine Dutu, vous nous emmenez dans le sud des États-Unis, car ce qui a retenu votre attention ce matin, c'est une polémique autour du supercalculateur d'Elon Musk dans le Tennessee.
Elon Musk, accusé avec sa start-up d'intelligence artificielle générative xAI, installée à Memphis, de violer le droit des habitants à un environnement propre et sain, en causant une pollution monstre de l'air et de l'eau, rapporte le Guardian et l'émission Democracy Now, le tout près de quartiers historiquement noirs et défavorisés. La NPR plante le décor. Au bout d'une longue route de la zone industrielle de South Memphis, un bâtiment blanc s'étend sur l'équivalent d'une dizaine de terrains de football américains. américain. Le maire de la ville a affirmé sur la chaîne télévisée locale WREG News que seules 15 turbines à gaz portables y brûlent du méthane en continu. Mais le Southern Environmental Law Center, une organisation environnementale, a voulu en avoir le cœur net et elle a pris des photos aériennes de XAI, des images thermiques aussi, qui prouvent que 33 turbines dégagent en fait d'importantes quantités de chaleur, explique le Guardian, sans concertation donc avec les agences environnementales ni la population, relève Forbes, l'agence Bloomberg et le Time Magazine. 33 turbines polluantes comptent 15 autorisées pour exploiter le superordinateur baptisé Colossus, un nom qui ne fait pas seulement référence au colosse de Rhodes, note la NPR, mais aussi un personnage de BD mutant et à un film de science-fiction qui met en scène un super calculateur devenu conscient. Mais cette installation a aussi des besoins colossaux, ajoute la NPR et la Deutsche Welle. 4 millions de litres d'eau par jour pour le système de refroidissement et 150 mégawatts d'électricité qui pourraient par ailleurs alimenter 100 000 foyers par an.
Et à quelques kilomètres de ce site se trouvent plusieurs quartiers résidentiels confrontés depuis longtemps à la pollution industrielle.
Des quartiers historiquement noirs, insiste le Time Magazine, à South Memphis, où le taux de cancer est 4 fois supérieur à la moyenne nationale des États-Unis. Comme le rappelle aussi la NPR, 10 ans de moins d'espérance de vie dans ce quartier de Memphis comparé au reste de la ville. Alors autant dire que recevoir un tract dans une boîte aux lettres intitulée « Breathe easy Memphis », respirer tranquillement Memphis, a fait bondir des élus et des habitants, comme le raconte le journal local Memphis Flyer, ainsi que l'émission Démocratie.
I'm holding the piece of garbage that was put in thousands of people's mailboxes across the city of Memphis, lying to us about XAI's methane gas pollution, saying that it's actually going to be cleaner for the air that we breathe.
Regardez, je tiens entre mes mains ce bout de déchet qui a été déposé dans les boîtes aux lettres de milliers de personnes à travers la ville de Memphis, qui nous mentant sur la pollution par le méthane en disant qu'elle serait en fait plus propre pour l'air que nous respirons. Mais nous savons que le méthane provoque davantage de crises d'asthme et de maladies respiratoires, s'insurge Justin J. Pearson, élu à la Chambre des représentants du Tennessee. Aucune transparence, dit-il encore, de la part de XAI sur ces turbines aux soi-disant faibles émissions, alors qu'elles rejettent en réalité plus de 100 tonnes d'oxyde d'azote et plus de 15 tonnes de formaldéhyde dans l'air. C'est immoral et nous devons savoir qui a envoyé ce message mensonger. Nous allons combattre, promet Justin J. Pearson, tous ceux qui empêchent de vivre et d'avoir de l'air pur à respirer. Cet élu du Tennessee affirme à Democracy Now, qu'Elon Musk perpétue le racisme environnemental en ignorant les souhaits des habitants de Memphis. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'une des entreprises d'Elon Musk n'a pas de permis pour des installations polluantes, explique la NPR et la chaîne télévisée CNBC. SpaceX, côté spatial, a été condamné à des amendes pour avoir rejeté des eaux usées industrielles à plusieurs reprises dans le Texas, et ce, sans permis. Par ailleurs, selon une étude de l'American Lung Association, l'association centenaire de lutte contre les maladies pulmonaires, près de la moitié des Américains, près de 156 millions de personnes, respirent des niveaux dangereux de polluants atmosphériques, alerte le Guardian, alors que l'administration Trump, aidée justement par Elon Musk, démantèle l'Agence de l'environnement et les normes actuelles.
Enfin, Catherine, ce lundi a été déclaré jour de deuil national en Iran.
Un deuil qui se transforme en colère après qu'une énorme explosion dans le plus grand port commercial du pays, à Sheikh Rajaï, a tué au moins 40 personnes et fait plus de 1200 blessés dans le sud du pays, rapporte Iran International. L'explosion s'est produite samedi matin, mais les incendies font toujours rage. Un épais nuage noir de produits chimiques toxiques plane sur les environs, comme le montre la télévision d'État iranienne ainsi que la BBC. Alors le média public britannique souligne qu'un jeu de reproches croissant a lieu en ce moment autour de Sheikh Rajaï, un port stratégique situé près de la grande ville côtière de Bandar Abbas, sur le détroit d'Ormuz, où transitent 85% des marchandises en Iran et 1/5 de la production mondiale de pétrole. Alors, sous couvert d'anonymat, une personne liée au corps des gardiens de la révolution islamique a affirmé au New York Times que ce qui avait explosé était du perchlorate de sodium, un ingrédient majeur du combustible solide pour les missiles. Et de nombreux Iraniens accusent donc les autorités d'incompétence. Et se demande, note encore la BBC, comment une telle quantité de matériaux inflammables a-t-elle pu être laissée dans le port sans les précautions nécessaires.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Demain dans Culture Monde, nous poursuivrons notre série sur le Canada à l'heure des élections fédérales anticipées. On a attendu demain pour parler du contexte politique puisque nous aurons a priori le résultat de ces élections qui commencent dans quelques heures. Une campagne que les déclarations et mesures douanières prises par Donald Trump ont pour le moins bousculé. Une chute du conservateur Pierre Poilievre dans les sondages alors qu'il était en tête au départ. Le libéral Mark Carney qui pourrait l'emporter alors que son prédécesseur Justin Trudeau est devenu très impopulaire. Et puis un candidat séparatiste aussi du Bloc québécois. On en parle demain dans Culture Monde. Dans un instant, les midis de Culture.